franceinter.fr.
Et du nouveau sur l'histoire de la domestication du chat depuis 10 000 ans aujourd'hui à la une de la science. Pour la première fois, un groupement international de recherche a réussi, grâce à des données génétiques, à suivre la dissémination géographique des chats domestiques depuis 9 000 ans. Résultats publiés dans la revue Nature et qui font apparaître deux événements majeurs dans l'histoire commune des chats et des hommes, deux vagues de populations félines, avec chacune leur spécificité. On va le voir avec vous, Thierry Grange, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste moléculaire, directeur de recherche CNRS au laboratoire épigénome et paléogénome, c'est à l'Institut Jacques Monod à Paris. Vous êtes co-auteur de ces travaux. Alors, à quand remontent les premières traces de rapprochement entre les chats et les hommes ?
Alors, les premières traces remontent de l'archéologie. Et particulièrement, en fait, il y a eu deux séries d'observations qui ont été faites et qui indiquaient deux régions différentes qui pouvaient avoir leur importance par rapport aux relations homme-chat. Mmh. Les premières observations, en fait, remontent à peu près à 9500 ans sur une île à Chypre où on a trouvé un chat dans une tombe avec un enfant. Et l'île de Chypre étant bien isolée du continent, c'était difficile d'imaginer que le chat aurait pu aller là à la nage. Donc le chat a dû être emmené dans des bateaux par des êtres humains. Et là, 9500 ans, on est au début de l'invention de l'agriculture et le début de la domestication des animaux dans le croissant fertile. Et les hommes, en domestiquant les plantes, ont commencé à accumuler des graines. Et les graines ont attiré des rongeurs. Les rongeurs, c'était une peste. Et les chats sont venus manger les rongeurs parce que pour eux, la peste, c'était de la nourriture. Et donc, cet arrangement mutuel entre l'homme et le chat, en fait, servait les intérêts de chacun de façon bien comprise. Et donc, ils ont commencé à cohabiter.
Alors, vous dites cohabiter, c'est-à-dire que c'est une collaboration entre le chat et l'homme autour de ce rongeur. Est-ce qu'on peut vraiment parler d'une première domestication à ce moment-là ?
Domestication, c'est un mot qui est difficile à utiliser dans ce contexte-là, parce que domestication, ça veut dire qu'on a commencé à... L'homme a commencé à isoler génétiquement une partie des animaux sauvages, et a commencé à sélectionner des caractères qui les intéressaient. Or, dans le cadre de la relation entre l'homme et le chat, c'est pas du tout évident que ce soit passé comme ça. En fait, il y a des transformations progressives des chats, une sélection progressive des chats qui s'accommodait mieux de la présence de l'homme, mais ça aurait pu se faire aussi tout un fait spontanément, naturellement, parce que les chats qui auraient s'accommodé le plus de la présence de l'homme avaient plus à manger, puisqu'il y avait des souris dans les environs, et donc pouvaient en fait être avantagés, se reproduire mieux, etc. Donc c'est même pas sûr que l'homme ait cherché à avoir des chats plus sympas autour de lui. Les chats plus sympas, ce sont simplement venus plus souvent.
Alors, dans ces travaux que vous publiez, ce que vous cherchez à raconter, c'est l'histoire de cette cohabitation sur 10 000 ans. Comment est-ce que vous avez fait pour rechercher des traces des chats autour des hommes sur cette longue période de temps ?
Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti de travaux de beaucoup de collègues archéozoologues qui ont identifié des ossements de chats sur les différentes fouilles qu'ils ont produites. Et donc, on a mis en place un réseau de nombreux collaborateurs qui nous ont fourni des échantillons à partir desquels on a pu faire des prélèvements d'une partie de l'os de façon à le réduire en poudre et de façon à en extraire l'ADN ensuite.
Ah, vous avez vraiment, il y a des traces d'ADN qui ont pu passer comme ça les siècles aussi facilement ?
Alors aussi facilement, disons, plus il fait froid, plus c'est facile.
Ouais.
Et or, ce qui était intéressant, c'était un endroit, c'est les endroits où il fait chaud particulièrement. Donc en fait, facilement, c'est
il y a quand même une dégradation.
En fait, c'est de l'ADN qui est de toute façon, même dans les régions froides, qui est de toute façon très dégradé.
Ouais.
Mais alors là, il est vraiment très dégradé. Et il en reste pas beaucoup. Et on a beaucoup d'autres ADN comme des ADN des microbes de l'environnement. qui vont se retrouver dans les eaux, et on va retrouver uniquement des traces. Souvent, sur ce type d'eau, c'est moins de 1% qui va être de l'ADN de l'origine.
Mais quand même, c'est très utile, donc, du coup, pour
on peut arriver à en extraire un peu. Ça demande des techniques spécifiques qui permettent de... C'est de la génétique moléculaire, mais c'est de la génétique moléculaire poussée pour aller chercher des traces de matériel très dégradé.
Alors au final, vous avez pu analyser l'ADN de plus de 200 chats anciens. Qu'est-ce qui ressort de cette grande étude génétique ?
Alors en fait, ce qui ressort est quelque chose qui nécessitait d'avoir beaucoup de chats. Parce que ce qu'on observe, c'est en fait des changements progressifs de la structuration qu'on appelle phylogéographique de ces populations de chats. C'est-à-dire que, en fait, les animaux, quand ils se déplacent relativement peu, quand ils sont à des endroits différents, ils vont accumuler des mutations génétiques différentes. Et donc, on va avoir des signatures génétiques dès leur localisation géographique. Et en fait, ce qu'on observe avec les chats domestiques actuels, c'est qu'il n'y a plus du tout de structuration phylogéographique, parce que les chats ont fait de grands mouvements au travers de la planète. Et ce que notre étude a permis de montrer, c'est en fait c'est l'histoire de ces reconfigurations de les structurations phylogéographiques, donc c'est l'histoire des mouvements des chats sur la planète au moment où ils ont commencé à interagir avec l'homme, parce que le chat est un animal territorial, il reste dans son coin, il bouge pas beaucoup à l'état sauvage, et quand il commence à interagir avec l'homme, et ben il va avoir un comportement qui va suivre le comportement humain qui lui bouge plus.
On le disait en introduction, c'est donc deux grandes lignées, deux grandes vagues de populations de chats que vous avez trouvées. D'où est-ce qu'elles sont venues ?
Alors donc en fait, ce qu'on a pu observer, c'était qu'il y avait des chats en Anatolie avec ces êtres humains qui ont inventé l'agriculture. Or, donc à une époque qu'on appelle le néolithique, donc qui correspond à cette invention de l'agriculture. Et ces populations humaines d'Anatolie particulièrement ont migré en Europe il y a à peu près 6-7 000 ans. Ces grandes migrations ont introduit des changements majeurs de la structuration des populations humaines. Il y a eu une grande arrivée humaine. Il y a eu aussi une grande arrivée de beaucoup d'animaux domestiques, c'est-à-dire la chèvre, le mouton, la vache, le cochon, tout ça sont arrivés en Europe lors de cette migration-là. Et dans ce qu'on voit, c'est que les chats anatoliens sont aussi arrivés en Europe à cette époque-là. Et on va retrouver donc la signature génétique de ces chats anatoliens. Donc ce qui montre bien, ce qui confirme l'observation qui avait été faite sur un cas particulier sur l'île de Chypre, qui devient une observation générale de l'interaction du chat au néolithique avec les humains. Ensuite, on va voir une deuxième vague. Et c'est ça, c'était quelque chose qui était... moins attendu d'une certaine façon, et en même temps pas si inattendu que ça, puisque on savait depuis longtemps que l'Égypte était une zone importante pour la domestication du chat, et même en fait avant que l'on ait fait la découverte sur l'île de Chypre, les gens avaient tendance à privilégier même l'Égypte comme le centre stratégique de
la domestication.
Ouais. Mais là, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même quelque chose d'important qui s'est passé en Égypte, parce que à l'époque de l'Antiquité classique, les chats égyptiens vont se retrouver disséminés abondamment partout. Et même en Anatolie, par exemple, on va avoir la moitié des chats qui vont être en interaction avec l'homme vont devenir des chats égyptiens. Ouais. Donc c'est une reconfiguration majeure qui signifie qu'il s'est passé quelque chose de particulier avec ces chats égyptiens.
C'est le chat de salon quasiment qui va naître en Égypte.
Est-ce que oui, justement, vous avez une explication pour ce succès du chat égyptien ? Est-ce qu'il était plus mignon ou est-ce que c'est une autre raison ?
Alors, on est absolument dans les hypothèses et les spéculations, mais c'est effectivement une hypothèse très séduisante. En fait, quand on compare le génome du chat moderne et du chat moderne sauvage et du chat moderne domestique, on peut identifier les gènes, les parties du génome qui ont été sélectionnées sur la lignée domestique. Donc on peut arriver à dire quelque chose de qu'est-ce qui a changé lorsque le chat est devenu domestique d'un point de vue génétique. Et quand on regarde ce qui a changé, en fait il a changé très peu. Si on compare par exemple par rapport au chien avec le loup, le chien et le loup c'est énorme, le chat c'est très peu. Mais le très peu concerne en grande partie des gènes qui sont impliqués dans le développement d'une structure du cerveau, qui va permettre à élaborer la structure du cerveau, qui s'appelle la crête neurale. Et en fait, c'est des mutations dans les gènes qui sont impliqués dans cette voie-là du développement ont été identifiées dans beaucoup d'animaux domestiques, et on pense qu'elles sont liées au changement de comportement qui caractérise les animaux domestiques, qui deviennent plus
proches encore des hommes.
Plus proches de l'homme. Donc probablement le gros de ce qui a changé dans le chat, c'est la proximité avec l'homme. Alors, effectivement, quand on considère ça plus le grand succès, c'est tentant de penser que c'est la proximité de l'homme, d'autant plus que l'iconographie égyptienne montre en fait une évolution au cours du temps qui montre un rapprochement très net du chat avec l'homme.
Voilà, donc ce chat câlin, comme vous avez titré Axel sur Twitter tout à l'heure. Merci beaucoup Thierry Grange pour ces informations, ces résultats donc qui paraissent dans la revue Nature et dont vous êtes l'un des auteurs, vous êtes biologiste moléculaire. Merci beaucoup à vous d'être venu dans notre studio et puis Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, 10 nouvelles exoplanètes potentiellement habitables qui viennent d'être découvertes par l'insatiable télescope Kepler, nouvelle moisson qui compte 250 planètes au total découvertes en dehors de notre système solaire, dont 10 donc sont à une distance de leur étoile permettant la présence d'eau liquide. Cette chasse porte le compteur d'exoplanètes détectées par Kepler à 4034. La diarrhée qui fait plus de bien que de mal, c'est la conclusion inattendue d'une étude menée par des chercheurs de Boston sur la souris. Bien sûr, l'utilité évidente de cette réaction biologique qui recrute l'eau de notre corps vers nos intestins et de débarrasser l'organisme d'une infection le plus vite possible. Mais alors, est-ce vraiment une bonne idée de vouloir bloquer ces symptômes avec des antidiarrhéiques? Eh bien, les chercheurs ont comparé les conséquences d'une infection intestinale chez des souris traitées pour ne pas avoir la diarrhée contre des souris témoins. Et ils montrent que l'organisme des rongeurs met plus longtemps à lutter, à éliminer les bactéries quand la diarrhée est bloquée, mais aussi que les dégâts tissulaires sont bien plus importants. Reste encore à montrer que ces conclusions sont valables pour les hommes en cas d'infection épisodique avant de changer nos pratiques. C'est un sujet dont nous parlerons d'ailleurs avec notre invité dans un instant. Et puis lire le mot soleil fait rétrécir nos pupilles. Autrement dit, le sens d'un mot est suffisant pour déclencher une réaction physiologique. Cette découverte sur le lien étroit entre langage et cerveau nous vient de chercheurs français et suédois. Les auteurs suggèrent que les images mentales créées à la lecture d'un mot évoquant une forte lumière ou au contraire une obscurité suffisent à déclencher les contractions réflexes des muscles de nos yeux. Des résultats préliminaires publiés dans la revue Psychological Science et qui donneront lieu rapidement à d'autres études dans plusieurs langues, mais aussi pour d'autres réactions corporelles. Le début peut-être de nouvelles découvertes sur le traitement du langage par notre cerveau et une expérience que vous pouvez tester chez vous.